Je vous invite à vous tourner avec moi dans la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 15. Nous allons prier pour remettre cette étude au Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour cette lettre de Paul à l'église de Rome à l'époque. Merci de ce qu'à travers cette église, c'est à nous qu'il s'adresse. Merci parce que tu veux nous révéler ton caractère, tu veux nous révéler ce que tu attends de nous. Tu veux nous révéler ce que tu peux faire en chacun de nous par ton Esprit Saint pour te glorifier, pour que l'église soit tout ce que tu veux qu'elle soit, Seigneur. Une épouse de ton Fils Jésus, que tu purifies, que tu prépares. Seigneur, sois à l'œuvre dans nos cœurs par ta parole. Merci aussi, Seigneur, pour toutes les autres églises de cette ville, de cette région, de ce pays qui t'adore en esprit et en vérité, qui se réunissent ou vont se réunir ou se sont déjà réunis. On te les remet pour que le royaume, ton royaume, Seigneur, puisse s'étendre dans notre pays de France. Seigneur, donne-nous de te faire confiance pour toucher le peuple que tu as dans ce pays. On est souvent découragé de voir le peu d'impact que ta parole, que les églises peuvent avoir ou ne pas avoir en France, Seigneur, mais aide-nous à voir au-delà des circonstances présentes. Aide-nous à être prêts pour le moment où tu vas, c'est notre espoir, notre prière, où tu vas causer un réveil dans notre pays. Et on sait, Seigneur, qu'il suffit que ton Esprit Saint le décide ou que ce soit dans ton plan pour que d'un seul coup, Seigneur, les âmes se repentent, que les églises se remplissent, que les églises se multiplient, qu'il y ait des implantations d'églises, Seigneur, que ta parole régénère toute une nation, Seigneur. C'est notre prière et commence par nous ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Une chose qui est très appréciée aujourd'hui ou dont on parle souvent, c'est le QI, le quotient intellectuel, IQ in English. On se dit que, oui, en fait, tel personnage, telle personne est très intelligente, elle a un fort QI. Il y a même un club, je crois, la Mensa, qui rassemble ceux qui ont un QI très haut, pour regrouper les gens qui sont vraiment intelligents. Parce que les autres, ils empêchent l'humanité de progresser. Je plaisante, mais c'est un peu élitiste, bien sûr. Et tant mieux si vous avez un fort QI, si vous êtes intelligent. Mais on va voir aujourd'hui, il y a un quotient qui est plus important que le QI, c'est le QA. Le quotient d'accueil, accueillir l'autre. On raconte, c'était au début, avant que le mouvement Calvary-Chapelle et le mouvement de Jésus ne prennent racine aux États-Unis, en Californie, il y avait déjà des hippies qui vivaient dans le peace and love, qui étaient habillés avec des vêtements folkloriques, des pantalons pattes d'éléphant, des chapeaux, des badges, des chemises hawaïennes. Il y avait vraiment en réaction contre un conformisme un peu étouffant où les gens venaient à l'église avec des costumes cravates. Et On raconte justement que dans cette église-là, il y avait tout le monde était installé, et puis il y a ce gars qui s'était pointé un peu en retard, et c'était de toute évidence un hippie. Il avait les pieds nus, il était sale, il avait besoin de prendre une douche, et les gens étaient un peu offusqués qu'on laisse rentrer cette personne, mais il était passé entre le service d'accueil, j'allais dire le service d'ordre, c'est souvent ce que fait le service, l'accueil c'est souvent un service d'ordre pour empêcher n'importe qui de venir. Mais il s'était retrouvé et puis il avait vu que toutes les places étaient prises à l'arrière, donc il avait continué de s'avancer, puis devant aussi c'était plein. Et donc finalement, il s'était installé juste devant l'estrade, devant là où il y avait la musique, et les gens étaient un peu... La musique, c'était l'orgue et le piano. Et les gens étaient... Mais c'est un scandale, quelqu'un va quand même intervenir. C'est du n'importe quoi, c'est un scandale. Finalement, il y avait un vieux monsieur, il devait avoir plus de 80 ans, il se trouvait que c'était un ancien dans l'église, un ancien à double titre. Mais les gens se sont dit, ah, il va aller reprendre ce jeune, il va lui dire de bouger quand même, c'est un scandale. Puis ils ont vu ce vieux monsieur s'approcher de ce hippie, se mettre à côté de lui, puis avec difficulté, en s'aidant de sa canne, s'asseoir à côté de lui, en lui serrant la main. Et là, d'un seul coup, il y a eu le silence, tous les gens qui râlaient ont été repris. Certains ont même été émus par ce beau geste d'accueil. Et le hippie restait là, pendant tout le culte. Mais le pasteur qui arrivait pour prêcher son sermon, leur a dit, ce que je vais vous dire maintenant, vous allez l'oublier. Mais ce que vous avez vu ce matin, ça va rester pour toujours dans vos cœurs. Amen. Ça, c'est le quotient d'accueil. Et Paul, dans ce chapitre 15, veut nous encourager à grandir dans notre QA. Lisons ensemble les 13 premiers versets de Romains 15. Nous qui sommes forts, nous avons le devoir de supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et de ne pas rechercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous cherche à plaire à son prochain pour son bien en vue de le faire grandir dans la foi. En effet, Christ n'a pas recherché ce qui lui plaisait, mais comme il est écrit, les injures de ceux qui t'insultent sont tombées sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la persévérance et par le réconfort que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, comme le veut Christ, Jésus-Christ. Afin que tous ensemble, d'une seule voix, vous rendiez gloire au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. J'affirme en effet que Jésus-Christ est devenu le serviteur des circoncis pour prouver que Dieu est vrai en confirmant les promesses faites à leurs ancêtres, les promesses faites à leurs ancêtres. Quant aux non-juifs, les païens, ils célèbrent Dieu à cause de sa bonté, comme le dit l'Écriture. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom. Il est dit encore, nations, réjouissez-vous avec son peuple. Et encore, louez le Seigneur, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. Ésaïe dit aussi, il paraîtra le rejeton d'Isaïe, il se lèvera pour régner sur les nations espéreront en lui. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Ce dernier verset, je ne sais pas si vous l'avez reconnu, on l'a chanté. On chantait « Que le Dieu d'espoir vous donne la joie par la foi en lui, vous donne la paix par la foi en lui, afin que vous débordiez, que nous débordions d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Et ce verset aussi, verset 7, « Accueillez-vous donc les uns les autres, faites grandir votre QA. » On dit, on sait que la Bible est inspirée par l'Esprit Saint, et je fais souvent remarquer que les divisions que nous trouvons dans nos textes, dans nos livres, dans nos Bibles, elles ne sont pas nécessairement inspirées par le Saint-Esprit. Ce sont des divisions en chapitres et en versets qui ont été mis en place par des hommes. En 1227, c'était les chapitres Stéphane Langton. Il avait été professeur à l'université de Paris, puis il a été archevêque de Canterbury à l'époque. Et puis la Bible a été, les chapitres ont été divisés en versets par Robert Estienne, un imprimeur français, en 1551, 15-1551. C'est très pratique, mais souvent c'est pas très en harmonie avec le flot des pensées. Et là, vous avez vu que on continue sur les premiers versets avec ce fameux thème des forts et des faibles dans la foi, qu'on a vu les deux dernières semaines. Et en même temps, si l'auteur, le Saint-Esprit se répète, revient avec le même thème, de considérer qu'il y a des gens qui sont forts parce qu'ils ont compris leur liberté en Christ, il y en a d'autres qui sont plus faibles parce qu'ils n'ont pas encore compris l'étendue de cette liberté, et ils s'attachent à des règles externes, des choses qui ne sont pas essentielles. C'est un thème tellement important que le Saint-Esprit nous le répète. Il le répète dans le texte et ce n'est pas le seul passage. Et comme on l'a fait remarquer, on s'attendrait à ce que ceux qui sont forts, c'est ceux qui respectent les règles avec vigueur, ceux qui sont pointilleux, ceux qui ne se laissent pas détourner des choses qu'on leur a inculquées. Et on a vu que ça peut être des choses allant du sapin de Noël à la traduction de la Bible qu'on utilise, des choses qui ne sont pas essentielles. Ça peut être les coutumes vestimentaires, ça peut être le style de louange, mais on sait que souvent des églises se divisent sur des choses comme ça. Alors que les choses essentielles, le fait que Jésus-Christ est vraiment homme, vraiment Dieu, 100% homme, 100% Dieu, qu'il est venu il y a près de 2000 ans pour s'incarner en un homme et pour mourir à la croix pour nos péchés, le fait qu'il est absolument ressuscité, ça c'est des choses avec lesquelles on ne peut pas transiger. Et c'est d'ailleurs le fait, souvent c'est le test pour savoir si un groupe religieux est un groupe chrétien ou non, c'est de savoir ce qu'ils font de Jésus-Christ. S'il n'est pas Dieu, s'il est le frère de Satan ou de Lucifer, oui, ou si c'est l'ange, l'archange Michael ou des choses comme ça, c'est des choses que croient les témoins de Jéhovah ou les Mormons. Vous pouvez savoir tout de suite que ce ne sont pas des représentants de la vraie foi chrétienne. Ils utilisent le mot chrétien pour faire avancer leur doctrine et leur littérature. Ils ont, et encore une fois, on n'est pas là pour les dire du mal d'eux, mais dire du mal de leurs mensonges. Et si vous les voyez, priez pour eux. Souvent, c'est difficile de leur parler parce qu'ils sont formés pour présenter des arguments, répondre à des objections de chrétiens, mais on sait que leur Bible, et on a des ministères, on a Marcel Marchioni sur Nice, qui a le ministère de rencontres et dialogues, qui est venu déjà et qui a des documents, des traités qui vous permettent de savoir la vérité et le mensonge dans ces domaines. Mais en même temps, on doit avoir de l'amour pour eux et prier pour qu'ils sortent de ces mensonges. Les témoins de Jéhovah, notamment, leur grande façon d'être sauvés, c'est de faire de la prédication. Alors, ils ne prêchent pas dans des salles nécessairement, mais lorsqu'ils sont dans la rue avec un petit chariot, en offrant, mais en général, ils attendent que vous veniez vers eux, ils font des heures de prédication. Et plus ils ont d'heures, plus ils ont de chances d'arriver en bonne position. Il y en a 144 000, ça étire ça de l'Apocalypse, qui vont avoir les meilleures places. Et puis les autres, ça va être des places subalternes. Mais il y a toujours, et en plus, ces 144 000 positions sont déjà remplies, d'après leur histoire. Voilà, tout ça pour dire, est-ce que c'est des choses essentielles ou pas, à vous de voir et d'apprécier cela. Et quand on a une bonne connaissance de la Bible, on s'aperçoit que la vérité nous rend libre. Ta parole est vérité et la vérité nous rend libre de ces choses secondaires. Et comme ce vieux monsieur qui est allé vers ce jeune hippie sale et un peu repoussant, ce qui compte, c'est notre relation, notre désir d'avoir une relation avec Jésus-Christ, d'avoir une vraie relation avec Dieu. Et là, peu importe s'ils s'habillent différemment, peu importe ils pourraient prendre une bonne douche, ce qui compte, c'est le cœur des gens vis-à-vis de Dieu. Et ce qui est dangereux, c'est que souvent, nous allons empêcher des gens de venir à Dieu à cause de ces choses non essentielles. On va leur dire, avant que tu viennes dans l'église, il faudra que tu arrêtes de fumer. On peut demander aux gens de ne pas fumer, mais nulle part il est dit dans la Bible que fumer est un péché. C'est pas sain, je dirais c'est pas malin. Parce qu'on se fait du mal, on devient accro au tabac, à la nicotine, on dépense de l'argent, on se ruine la santé, mais ce n'est pas un péché. Mais certains vous diront, ah si tu fumes, tu peux pas. Et je vous renvoie à ce qu'on a déjà dit sur ces sujets les deux dernières semaines. Et là, Paul déclare, nous qui sommes forts, on va voir les six premiers versets, les vraies marques de la communion fraternelle. Il s'adresse aux forts dans la foi, donc ceux qui ont plus de maturité chrétienne. Ça ne veut pas dire de maturité dans le temps. On peut avoir été chrétien très longtemps et ne pas être sorti d'un carcan de règles sur des choses non essentielles. mais il demande à ses forts dans la foi à aider les faibles dans la foi, en quelque sorte. Il faut être prêt à renoncer à certains droits dans l'espoir de faire grandir les autres. Donc encore une fois, l'effort dans la foi, c'est ceux qui ont la conscience tranquille, qui ne sont pas restreints, qui connaissent les vrais principes de Dieu, qui n'ont pas de restrictions externes, qui aiment servir Dieu dans la liberté que la parole nous donne. Et en fait, ils ont une plus grande liberté spirituelle. C'est formidable. Par contre, ceux qui n'ont pas cette liberté, ils ont tendance à avoir une conscience chargée de culpabilité. Ils manquent de confiance dans leur relation avec Dieu. Ils pensent toujours qu'il y a des règles à respecter, sinon Dieu va enlever sa grâce. Alors que la grâce, c'est justement quelque chose qu'on ne mérite pas, que Dieu nous donne. Et cette grâce, elle nous transforme. C'est elle qui va nous faire prendre une douche pour ne pas incommoder ceux qui sont autour de nous. C'est cette grâce qui va nous permettre de mûrir, de grandir, de donner du fruit. Et donc, pour faire preuve d'amour, ces forts dans la foi ont un devoir, une obligation, supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, je dirais de ceux qui ne le sont pas encore, et de ne pas rechercher ce qui nous plaît. Ne pas rechercher ce qui me plaît. Moi, Pierre, il y a des choses qui me plaisent. Est-ce que dans mes relations avec mes proches, mes frères dans l'église, mes voisins, mes amis, est-ce que je recherche ce qui me plaît à tout prix, peu importe les conséquences sur ceux qui m'entourent? Donc il y a cette obligation. Et ça, c'est lorsque on a le cœur rempli d'amour, de cet amour agapé. Paul nous a dit dans Romains 5:5 que cet amour, il vient d'ailleurs. C'est l'amour agapé qui est mis dans nos cœurs par le Saint-Esprit. On ne peut pas le manufacturer nous-mêmes. On peut essayer de dire « Oh, je vais aimer tous les gens maintenant. Je vais plaire à Dieu. Je vous souhaite bon courage. » Par contre, si l'Esprit Saint est en vous, lui, il déverse en vous cet amour agapé qui fait que vous le donnez même à ceux qui ne sont pas dignes de votre amour. Parce que vous réalisez qu'en fait, vous-même, vous n'êtes pas digne de l'amour de Dieu et que ce que vous avez reçu, vous voulez le donner aux autres. Alors, encore une fois, toutes ces choses, ne croyez pas que j'ai maîtrisé tout ça et que je sois parfait dans tous ces domaines. Ceux qui me connaissent un peu savent que ce n'est pas le cas, mais par l'Esprit Saint, c'est une ambition légitime. Nous avons le devoir de supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas forts, mais de rechercher ce qui nous plaît. Et de ne pas rechercher ce qui nous plaît, pardon. Et c'est l'amour, la grande source de puissance qui nous permet de supporter les fardeaux des autres. Vous avez entendu cette histoire de cette petite fille, et je vous rassure tout de suite, ce n'était pas Daphné avec Django, mais elle portait son petit frère, et elle avait du mal parce qu'il pesait lourd, et ça serait le cas avec Daphné et Django. J'aimerais bien qu'il y ait cette histoire qui se passe vraiment entre eux, mais ce n'est pas encore le cas. Et on lui demande, mais il est trop lourd pour toi. Mais non, il n'est pas lourd, c'est mon frère. Nous aussi, lorsqu'on a des frères qui ont des fardeaux, on doit les porter en disant, c'est pas lourd, c'est mon frère, c'est ma sœur. Et comme une des plus grandes joies pour un pasteur, c'est de voir les gens qui s'entraident les uns les autres. J'étais béni hier de voir toute l'aide que Tonio et Lindsay ont reçue de beaucoup d'entre vous. Je suis sûr qu'il y en a qui vont me dire « mais on n'était pas au courant, on serait venu, on aurait fait ». Mais c'est l'amour en action. On peut gloser, on peut parler, on peut faire des dissertations, des poèmes, des images, des montages multimédia. Mais tant qu'il n'y a pas l'action d'amour, l'amour reste un vain mot. Verset 2, « Que chacun de nous cherche à plaire à son prochain pour son bien. » Pour le bien de l'autre, en vue de le faire grandir dans la foi. Donc il y a cette dimension de ce qu'on appelle l'édification, c'est-à-dire de bâtir l'autre, de construire quelque chose de durable chez l'autre, dans sa foi, dans sa vie. Et ça aussi, c'est intéressant parce qu'on peut penser que s'il y a des gens qui sont faibles dans la foi, des gens qui disent qu'un vrai chrétien doit, une vraie chrétienne doit porter des longues jupes, jamais de pantalon, la seule maquillage c'est du jus de vinaigre. Et pas de sourire. Ça va pas le faire. Il faut vraiment que il y ait cette... J'en suis resté au vinaigre, là. J'étais distrait par mes remarques. Il faut être prêt avec doigté, avec gentillesse, avec acceptation, faire bouger la personne qui est faible vers une position plus forte. Lui expliquer qu'en fait c'est pas grave si dans l'église il y a un sapin de Noël, ça veut pas dire qu'on adore les idoles qui pouvaient être adorées sous Sémiramis ou que sais-je encore, que c'est simplement une manifestation de joie, et que c'est pas grave. Ce qui compte c'est ma relation personnelle tous les jours avec le Seigneur. Et amener ceux qui sont faibles à avoir une vision plus épanoui de la relation avec Dieu. Sinon, on en reste tous à... C'est le plus petit commun, plus grand commun dénominateur, plus petit PPCM, plus petit commun multiple. On devient tous légalistes, on devient tous impossibles à vivre. Donc il y a cette dimension d'accepter la faiblesse chez l'autre, mais de lui montrer aussi qu'il y a en vue de le faire grandir dans la foi. Si on lui montre de l'amour, si on cherche à lui plaire, il va être touché par ça. Il va prendre ça comme exemple. J'aime bien la traduction par un dénommé Phillips, un anglais, qui traduisait le premier verset en disant « Nous qui avons une foi forte, nous devons prendre sur nos épaules le fardeau des doutes et d'inquiétude du faible, et non continuer notre petit bonhomme de chemin comme si de rien n'était. » En anglais, c'est « We who have strong faith ought to shoulder the burden of doubts and qualms of the weak and not just go on our own sweet way. » Ils sont faibles, on les laisse dans la poussière et on avance. Non, il y a cette désir de les faire grandir. Il nous montre des exemples. Paul aurait pu prendre son exemple, mais il va toujours à l'exemple de Christ lui-même. Et il nous dit, en effet, Christ n'a pas recherché ce qui lui plaisait, mais comme il est écrit, les injures de ceux qui t'insultent sont tombées sur nous. Il cite là un psaume et qui nous rappelle que Christ n'est pas venu chercher ce qui lui plaisait. Lorsqu'il priait dans le jardin de Gethsémané, il disait « Si que cette coupe, cette souffrance qui m'attend, puisse passer mes lèvres, mais pas ta volonté, mais que pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. » Il était prêt à souffrir, pas à faire ce qui lui plaisait, et les injures de ceux qui insultaient le Père sont tombées sur le Fils. Il y a cette façon d'imiter. Paul disait « Imitez-moi comme moi j'imite Christ ». Et c'est toujours bien de chercher à imiter Christ ou d'imiter quelqu'un qui l'imite mieux que nous pour l'instant. Ça, c'est... Paul avait de quoi, pourtant... Il disait même « Je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. En effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Parce que quelque part, dans toutes ses souffrances, il réalisait sa faiblesse. Et lorsqu'on réalise notre faiblesse, à ce moment-là, on est ouvert à recevoir la puissance de Dieu. Le pire qui puisse nous arriver, c'est de penser qu'on a tout compris, qu'on a tout en main. Et à ce moment-là, on ne peut rien recevoir de Dieu. On pense qu'on a la solution au problème. Mais Paul, il reconnaissait que c'est lorsqu'il réalisait sa profonde faiblesse dans toutes ses souffrances qu'il pouvait être fort parce que Dieu venait lui donner sa force. Dans Philippiens 4, 13, il nous disait « Je peux tout par celui qui me fortifie », parlant de Christ. Et le principe est très simple. On ne peut recevoir que si on a les mains vides. Hier, il y avait des gens qui avaient des caisses ou des cartons sur les mains. Ils ne pouvaient pas recevoir un carton de plus ou une canne à pêche, ou quoi que ce soit. La force, elle n'est pas en nous, la force, elle est en Christ. Comment est-ce qu'on peut devenir fort dans le Seigneur, pour devenir fort dans notre QA, notre quotient d'accueil? Par l'encouragement de la parole de Dieu. Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, verset 4, afin que par la persévérance et par le réconfort que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Tout ce qui a été écrit dans la parole de Dieu a été décrit à l'avance, maintenant nous la recevons, et ça a été écrit pour notre instruction, pour nous permettre de grandir, de comprendre un peu mieux les choses. Vous avez noté le petit mot « tout », T-O-U-T. Quelqu'un, je crois que c'est Calvin lui-même, qui disait « Pensez qu'il y a des passages qui ne sont pas nécessaires dans la Bible, c'est faire insulte au Saint-Esprit qui les a tous inspirés. » Je sais que quand je fais mes lectures quotidiennes, que j'essaye de faire tous les jours, comme le mot quotidien l'implique, et qu'on tombe sur les généalogies, c'est pas évident à lire. Hein. Ou alors, on cherche un passage qui va nous donner plus de viande quelque part. Et pourtant, il y a des choses formidables à découvrir dans les généalogies. Et on a déjà expliqué que, par exemple, dans la Genèse 5, il y a déjà le message de l'Évangile est annoncé par le nom des patriarches. Mais on ne va pas prendre le temps de regarder ça. Tout a été inspiré par Dieu. Ça a été écrit d'avance pour notre instruction. Et ça, c'est un thème qui revient dans 1 Corinthiens 10, par exemple. Cela leur est arrivé à titre d'exemple, parlant des pères fondateurs de la foi chrétienne, et fut écrit pour nous avertir, parlant des patriarches, nous pour qui la fin des siècles est arrivée. Peut-être que vous pensez que la fin des siècles n'est pas encore là, mais cette période qui amène à la fin des siècles, elle a commencé et elle est sans doute plus proche qu'on ne le croit. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute bonne œuvre. 2 Timothée 3, 16 et 17. Il faut connaître les promesses de Dieu pour s'en saisir et voir Dieu les accomplir. Connaître la parole de Dieu, c'est essentiel pour développer votre quotient d'accueil. Et puis, il parle là de trois choses. La persévérance, le réconfort et l'espérance. L'amour qui supporte, c'est la persévérance. C'est le mot qui veut dire se tenir debout sous quelque chose, sous-entendu sous les épreuves, sous les difficultés, sous la fatigue, sous l'âge. C'est de se tenir debout. C'est l'amour qui supporte. Et puis, j'aime beaucoup cette expression, le réconfort que donnent les Écritures. Est-ce que vous avez déjà fait cette expérience d'être réconforté par la parole de Dieu? J'imagine que si vous êtes chrétien depuis un certain temps, vous l'avez déjà ressenti. J'ai eu des périodes dans ma vie douloureuses et je me souviens que je pouvais me tourner vers les psaumes. Quelqu'un m'avait donné le conseil, tu lis les psaumes jusqu'à ce qu'elles te fassent du bien. Parce que toutes les émotions de la nature humaine, de la vie humaine, des circonstances de l'homme et de la femme, se trouvent à un moment donné ou à un autre adressées par les psalmistes, David et les autres. Et au début, on n'a pas envie de lire, ça nous passe au-dessus. Et puis si on persévère, si on continue, en s'attendant à ce qu'elles nous parlent, à ce moment-là, elles viennent et nous apportent du réconfort, de l'espérance. L'espérance, c'est cet amour qui anticipe joyeusement le salut final. Et donc cette persévérance, cet amour qui supporte, ce réconfort que donnent les Écritures, c'est l'amour qui tient bon. Le réconfort, c'est l'amour qui est dans la paix. Ça nous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres comme le veut Jésus-Christ. Et encore une fois, c'est Dieu qui nous permet de faire ça. Ce n'est pas nos bonnes résolutions, ce n'est pas nos efforts, nos formations universitaires, que ce soit en sociologie, en psychologie, en économie, en mathématiques, il y a intérêt à s'entendre bien parce qu'il va y avoir une synergie qui va donner des bons résultats. Non, tout ça, ça peut être intéressant intellectuellement, il peut y avoir des vérités intéressantes, mais c'est l'œuvre de Dieu en moi qui me permet d'aller vers l'autre. Et puis, donc il y a cet apprentissage de la connaissance. On arrive à vivre en plein accord les uns avec les autres. Prions pour ça. Lorsque vous pensez à notre église, lorsque vous pensez à d'autres églises de cette ville et que vous connaissez, priez pour qu'il y ait vraiment cet accord les uns avec les autres. Satan, on sait qu'il veut détruire. C'est lui qui va diviser, qui va prendre un sujet, qui va créer des malentendus, qui va créer des a priori, qui va jouer avec notre chair, notre vieille nature, pour nous diviser, pour nous séparer, pour avoir de l'amertume les uns envers les autres. Et rien de plus terrible que de voir une église qui se divise. Parce que ça fait du mal aux gens qui sont dans l'église, ça fait du mal à la cause de Christ, ça fait du mal au Saint-Esprit, il souffre de nous voir nous diviser, alors que si nous nous repentons, si nous demandons pardon, si nous allons vers l'autre en l'accueillant, en lui expliquant notre position, en acceptant la sienne, si nous sommes plus forts, nous acceptons sa vue plus faible, entre guillemets, plus tatillonne, et on peut vraiment avoir cette vie en plein accord les uns avec les autres. On dit souvent le Nouveau Testament, c'est les uns les autres. C'est une expression qui revient très souvent. Acceptez-vous les uns les autres, aidez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres. C'est cette unité les uns les autres qui permet à l'Église d'être forte et de faire grandir l'Église de Christ. Tous ensemble, verset 6, nous pouvons aussi, donc on peut grandir par l'apprentissage de cette connaissance de Dieu que par l'Écriture, par la connaissance de la, par la communion fraternelle dans le corps de Christ, hein, c'est ce que une autre expression, c'est la communion fraternelle les uns les autres, le corps de Christ. Et c'est important de venir même au culte avec l'idée de donner aux autres, donner de l'attention, de donner de la prière, de donner du réconfort, de parler, d'être disponible pour passer du temps. Et non pas seulement pour recevoir quelque chose. Si nous venons avec la vision « qu'est-ce que je vais pouvoir recevoir ce matin ?», on va être très malheureux. Parce que tous autant que nous ne sommes pas parfaits, on va passer à côté de vous sans réaliser que vous êtes dans une situation terrible et on va vous dire « ça va, oui ça va ». Et on va, sans vouloir trop vous parler parce qu'on a une autre personne avec qui on veut parler. Et donc, au lieu de dire « qu'est-ce que je peux recevoir ?», c'est de dire « aujourd'hui, qui est-ce que je peux bénir ? Est-ce que je peux parler à un tel qui je vois souvent un peu isolé, quelqu'un qui ne connaît pas encore beaucoup de monde ? On a des personnes relativement nouvelles parmi nous aujourd'hui. N'attendez pas qu'elles viennent vous dire bonjour, allez vers elles. Aller vers ces personnes pour qu'elles se sentent accueillies, qu'il y ait un bon QA qui se répande. Et c'est ça, c'est accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Ça rend gloire à Dieu parce que c'est pas, encore une fois, les non-croyants, les non-chrétiens peuvent faire preuve d'accueil, peuvent faire preuve il y a des associations qui sont là pour réconforter, pour souvent elles nous font honte, nous les chrétiens qui avons reçu la vérité et l'amour de Christ. Et en fait, ces personnes sont capables d'aider, de s'entraider. Pourquoi ? Parce que tous les hommes sont créés à l'image de Dieu. Et l'image de Dieu a été rendu flou par le péché, dans la plupart, mais tout ce qui est bon devant Dieu chez tous les hommes, c'est parce que Dieu les a créés à son image, l'image de Dieu. Et nous devons être reconnaissants pour ces associations caritatives et ne pas dire « oh, c'est sans Christ, donc ça vaut rien ». Ils le font parce que quelque part, ils ont ce désir de faire ce pour quoi ils ont été créés. Ne vivons pas pour notre plaisir, mais pour celui de l'autre. Ce qui est remarquable, on va regarder la suite. J'affirme en effet que Jésus-Christ est devenu le serviteur des circoncis pour prouver que Dieu est vrai en confirmant les promesses faites à leurs ancêtres. Il va plus loin au début des faibles et des forts, et en fait, l'Église de Rome, on l'a déjà souvent répété, c'était une Église constituée de Juifs qui se trouvaient à Rome, qui étaient venus à Christ, et puis aussi de païens, de Romains, qui découvraient Christ. Donc il y avait des anciens Juifs et il y avait des anciens païens. Et la tendance était pour les Juifs de se penser supérieurs à ces païens qui n'avaient pas tout leur héritage spirituel, toute leur richesse, qui ne comprenaient pas les allusions à l'Ancien Testament. Et donc, quand Paul parle de ceux qui étaient faibles dans la foi et de ceux qui étaient forts dans la foi, souvent les forts dans la foi, c'était les païens qui n'avaient pas de problème à manger de la viande qui avait peut-être été sacrifiée aux idoles, alors que les Juifs, qui avaient tout ce passé religieux, voulaient être sûrs que surtout il n'y avait pas eu de sacrifice aux idoles avec la viande qu'ils mangeaient, et qui préféraient devenir végétariens pour ne pas prendre le risque. Et donc, en fait, ce que Paul veut faire, il veut qu'il y ait une unité des Juifs et des païens. Pour nous, il veut qu'il y ait une unité de ceux qui sont chrétiens depuis longtemps, peut-être même juifs parmi nous, des juifs messianiques, et puis ceux qui viennent de la rue, qui n'ont pas d'arrière-plan chrétien, mais qui sont touchés par Dieu, qui veulent être touchés par sa grâce. Il veut, dans ces versets qui viennent là, il connaissait très bien la parole de Dieu. À l'époque, la parole de Dieu, c'était essentiellement l'Ancien Testament, puisqu'il était en train d'écrire la parole de Dieu. Et ce qui était remarquable, c'était qu'il la connaissait si bien. Combien de chansons païennes, je veux dire séculaires, pas nécessairement, j'ai pas dit paillardes, païennes, qui ne soient pas des chansons religieuses, on en connaît les paroles. C'est rentré et on en connaît les paroles. Et puis on est incapable de citer un verset. C'est vraiment dommage de pas recevoir la parole de Dieu dans notre esprit. Encore une fois, il n'y a rien de mal à connaître des chansons païennes. On a une jeune fille qui vient d'avoir ses 20 ans. Et j'ai tout de suite pensé à une vieille chanson française. On n'a pas tous les jours 20 ans, ça nous arrive qu'une fois seulement. Et j'ai envoyé ça en disant, c'est pas spirituel, mais c'est plus français, tu meurs. Avec l'accent de Berthe Silva des années 40 ou je ne sais pas quand. Mais unité des juifs et des païens dans l'adoration, c'est ça ces versets-là. Jésus-Christ était le serviteur des circoncis, c'est-à-dire des juifs, parce qu'il prouvait par là que Dieu confirme les promesses qui ont été faites aux patriarches, aux ancêtres des juifs. Mais les non-juifs, ils célèbrent Dieu, verset 9, à cause de sa bonté. Et là, il cite encore un autre verset. Il connaissait si bien la parole. Ça, c'est le psaume 18, 50. Puis il va citer le psaume 117, 1. Lorsque l'Éternel dit, « Vous, toutes les nations, glorifiez-le, vous, tous les peuples. » Et il y a une belle progression entre les versets 9 à 12. Les non-juifs, ils célèbrent Dieu à cause de sa bonté, comme le dit l'Écriture. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, je chanterai à la gloire de ton nom. Il est dit encore, nations, réjouissez-vous avec son peuple. Et encore, louez le Seigneur, vous toutes les nations, célèbre-le, vous tous les peuples. Ésaïe dit aussi, il paraîtra le rejeton d'Isaïe. C'était Jesse en anglais, c'est-à-dire le fils, le David et le David ultime, Jésus-Christ. Il se lèvera pour régner sur les nations espéreront en lui. Les Juifs commencent par glorifier Dieu parmi les nations. Je te confesserai parmi les nations. Je te louerai parmi les nations, c'est le verset 9. Le fait de chanter Dieu, ça attire l'attention des autres. Souvent, j'ai des commentaires lorsqu'on chante le dimanche matin, des gens qui ne sont pas chrétiens, mais qui disent qu'ils s'arrêtent pour écouter. Il y a un témoignage par l'adoration du peuple de Dieu qui interpelle les nations. Les nations, c'est le même mot que les ethnies, c'est-à-dire les non-juifs. Et puis les païens, ils commencent à se réjouir avec les juifs. C'est verset 10, « Nations, réjouissez-vous avec son peuple. » Nous qui sommes d'origine non-juive parmi nous, on s'est réjoui avec le peuple juif. On est redevable aux juifs pour avoir préservé les oracles de Dieu, pour nous avoir donné l'Ancien Testament. Donc d'abord les juifs chantent parmi les nations, ensuite les païens se réjouissent avec les juifs, et puis, verset 11, les juifs et les païens louent, glorifient le Seigneur ensemble. Un jour ça va arriver. Et puis finalement, Christ règne au-dessus des juifs et des païens. Donc cette progression, c'est... Elle débouche sur quoi ? Elle débouche sur l'abondance divine. Le Dieu de l'espérance qui nous remplit de toute joie, de toute paix dans la foi pour que nous débordions d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Celui qui sait que son passé est réglé parce qu'il a reçu le pardon en Jésus-Christ mort sur la croix pour ses péchés. Celui qui sait qu'il peut compter sur Dieu pour le présent, et puis celui qui peut compter sur Dieu pour son futur éternel, il a la joie, il a la paix. La semaine dernière, j'avais dit que j'aime bien cette expression qui dit que la joie, c'est la paix qui danse, et la paix, c'est la joie qui se repose. Mais quand c'est dans votre cœur, ça vous remplit complètement et ça déborde. Et c'est le Dieu qui nous donne cette espérance par la puissance du Saint-Esprit qui fait qu'on peut être utilisé pour témoigner autour de nous. C'est une abondance divine. On peut... Ce même auteur anglais, Phillips, dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et paix en votre foi, afin que par la puissance du Saint-Esprit, votre vie tout entière et votre perspective, puissent rayonner d'espoir. Amen. On va s'arrêter là. Seigneur, merci pour... ton désir de nous voir grandir dans l'accueil de l'autre, Seigneur. Pas pour le laisser dans son erreur ou dans son incrédulité, mais pour l'amener à toi et lui faire goûter l'abondance que tu veux donner, Seigneur. L'abondance d'espérance. Que notre joie, notre paix rayonne, Seigneur, autour de nous. Et tout ça, Seigneur, c'est pas par nos propres efforts, mais c'est par la puissance de ton Esprit. Seigneur, remplis-nous de ton Esprit Saint, remplis-nous de cet amour agapé venu d'ailleurs que ton Esprit déverse dans nos cœurs, pour que nous puissions accueillir l'autre, Seigneur. Et Seigneur, ma prière, c'est que si quelque chose est retenu aujourd'hui par nous tous. Ce ne sera pas tant mes paroles que cette image de cet homme qui renonçait à ses privilèges d'être assis, d'être bien pensant, mais qui accueillait ce jeune homme qui avait tellement besoin de toi. Imprime cette image dans nos cœurs, Seigneur, pour que nous soyons des gens qui accueillons l'autre, pas seulement de façon passive, mais en allant vers l'autre, fort de tout ce que tu nous as donné, Seigneur, pour les amener à toi. C'est notre prière. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen.